autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Sylvain Guibaud de La Recherche. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
En route pour les étoiles aujourd'hui, nous allons rêver à une prochaine mission interstellaire, cauchemarder autour d'insectes OGM, nous interroger sur les liens entre alimentation et cancer et plonger dans le paradoxe des trous noirs en essayant d'en retirer quelques informations autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue. Ce mois de février marque le début d'une série de festivités pour les grands organismes de recherche en France, à commencer par le plus important d'entre eux, le CNRS, qui fête ses 80 ans en 2019, à suivre aussi par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui célébrera à Paris et à Dakar ses 75 ans en 2019. L'occasion pour nous peut-être de faire un petit état des lieux de la recherche en France, autour notamment de l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est invité, c'était le 1er février dernier, à la Convention des directeur et directrice des laboratoires du CNRS, pour annoncer une loi de programmation biannuelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les chercheurs et pour les organismes de recherche ? Carole Châtelain ?
Oui, c'est une bonne nouvelle pour les organismes de recherche qui sont âgés, ils ont 80 ans pour ce qui est du CNRS, qui sont à la recherche d'une nouvelle façon de fonctionner, il faut rappeler que ce sont des organismes de recherche qui font de la France un grand pays de recherche justement, et que nous avons un certain nombre de chercheurs qui vraiment sont à la pointe des découvertes actuellement, ça je crois qu'il faut vraiment le rappeler.
Et que notre système est tout de même envié par pas mal de chercheurs à l'étranger.
Et que notre système est effectivement relativement envié, mais qu'il faut absolument le moderniser. Donc je pense effectivement que l'annonce est une bonne nouvelle.
Alors pendant cette ouverture justement de célébration des 80 ans du CNRS, son président Antoine Petit a dit qu'il voulait s'ouvrir au secteur privé, à la société, multiplier les partenariats. On comprend un peu où il veut en venir. Par contre, moins bonne nouvelle, on parlait des chercheurs étrangers qui souvent nous envient un peu ces gros organismes de recherche, c'est l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Comment est-ce qu'on peut justement concilier les deux, Carole ?
Ben, je crois qu'il faut quand même rappeler que l'état de l'université française est vraiment en train de changer, et pas dans le bon sens. Je crois que les universités sont, je pense employer un mot qui n'est pas trop fort, je pense qu'elles sont pour certaines à l'agonie financière, et que l'État est peut-être en train de les abandonner. Je pense que c'est le risque qui est caché derrière cette... Enfin, du moins, c'est la crainte qui est exprimée derrière cette augmentation des droits d'inscription, puisque certains craignent que derrière, il y ait un abandon des crédits. Mais il faut aussi rappeler que la France est l'un des pays, donc c'est le quatrième pays d'accueil pour les étudiants étrangers, mais qu'elle a aussi des droits extrêmement bas. C'est quand même un dixième de ce qui est demandé dans les pays anglo-saxons.
Donc, on a encore de la marge, il faut trouver un équilibre.
Voilà, alors les craintes peuvent s'entendre, mais l'université a aussi besoin de ressources, et il n'y a qu'à aller dans les amphis pour voir dans quel état sont les universités aujourd'hui.
Affaire à suivre, en tout cas, année peut-être de tous les dangers, en tout cas année, cette année 2019, ce sont donc les 80 ans du CNRS, mais aussi les 75 ans de l'IRD, on vous en reparlera très vite. Pendant ce temps-là, outre-Atlantique, aux États-Unis, les chercheurs du Fonds mondial de recherche sur le cancer viennent de livrer les résultats d'une nouvelle méta-étude sur les liens entre alimentation et cancer. Ça, c'est la une et le dossier de Science et Avenir, Carole. Alors, avant de découvrir avec vous les recommandations de ces experts, voilà déjà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Extrait d'un reportage diffusé dans l'Effet Papillon sur Canal+.
Les chaînes de télé en raffolent. Internet en est red dingue. Aux États-Unis, les compétitions de bouffe sont devenues un phénomène suivi par des millions de fans.
Aile de poulet, burger géant, hot dog, au rayon malbouffe, il y en a pour tous les goûts. L'objectif, se goinfrer au maximum en un temps limité. Gagner ces concours peut rapporter gros. Alors certains Américains ont décidé d'en faire leur job à temps plein. Tels des sportifs de haut niveau, ils s'entraînent au quotidien.
Mieux vaut s'abstenir de cette compétition de malbouffe carrément mortifère, Carole Châtelain, d'autant que les liens entre alimentation et cancer viennent à nouveau d'être mis en lumière par une méta-étude internationale qui fait la une et le dossier de Science et Avenir.
Oui, c'est une méta-étude qui a lieu tous les 10 ans. Et elle est faite par le World Cancer Research Fund, qui est américain. Donc c'est effectivement une enquête qui concerne plus les pays occidentaux. Mais qu'est-ce qu'une méta-étude ? Eh bien, c'est l'étude de toutes les publications disponibles sur le sujet, c'est-à-dire que tout un pool de scientifiques interdisciplinaires, il y a des épidémiologistes, il y a des cancérologues, il y a des nutritionnistes, etc., etc., ont épluché les milliers d'études dans les meilleures publications scientifiques actuels et en ont sorti les enseignements qu'il faut absolument retenir, parce qu'on a l'impression qu'on sait déjà tout sur alimentation et cancer, mais c'est faux d'une part, et puis il faut vraiment non seulement le lire, mais il faut comprendre et appliquer ces préceptes, c'est
Quelles sont les recommandations justement de ces experts ? Moins de viande, moins d'alcool.
Alors oui, on a l'impression qu'on les connaît, mais l'avantage de cette méta-étude, c'est qu'elle a vraiment corrélé les connaissances, les maladies et les organes. Donc dans Science et Avenir, nous avons fait une silhouette dans laquelle nous avons figuré les organes avec les avantages, les protections avérées et puis les méfaits de certains aliments. Donc ça, c'est vraiment très précis. Et nous avons fait la distinction, parce que les experts la font, entre ce qui est avéré, ce qui est supposé, ce qui n'est pas encore très, très certain. Et nous avons ainsi, et c'est là où c'est intéressant, nous sommes rentrés dans les mécanismes, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire « mangez moins de viande pour éviter tel type de cancer », encore faut-il comprendre pourquoi. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire d'aller vraiment au fond des choses et au fond métabolique des choses, pour que les gens aient enfin une idée claire de ce qu'il faut et ne faut pas faire.
Parce qu'on se rend compte aussi que l'alimentation, elle a une influence aussi sur nos gènes, enfin que ça va beaucoup plus loin encore que juste ce qu'on croit, c'est-à-dire ce qu'on mange pour le jour même ou pour la semaine ou pour notre propre...
Oui, nous mangeons tous les jours de notre vie, donc ça a une influence, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est une discipline qui est de plus en plus à la mode, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on la connaît de mieux en mieux. Mais ce n'est pas très surprenant que le fait que ce que nous ingérons influence nos gènes. Si l'on regarde dans le monde animal, on le sait, dans le monde des abeilles par exemple, ce qu'elles deviennent, c'est-à-dire ouvrières ou reines, dépend
de leur alimentation,
de ce qu'on leur donne à manger. Donc effectivement, ça a une influence sur l'expression de nos gènes, non pas sur nos gènes eux-mêmes, mais sur ce qu'on appelle des petites étiquettes, on va faire simple, on va dire des petits sens interdits, ou qui peuvent être modifiés, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un passage ou fermer, c'est-à-dire exprimer ou non un gène, en fonction de ce que l'on mange.
C'est-à-dire que selon les gens, il y a des aliments protecteurs, d'autres agresseurs. Alors dans les aliments agresseurs, il y a, on l'a dit, a priori la viande, l'alcool, le sucre,
oui.
En gros.
Revenons sur l'alcool, par exemple, puisque en France, nous avons un ministre de l'Agriculture qui... malgré toutes les études scientifiques, pense encore, du moins fait semblant de le penser, que toutes les molécules d'alcool ne se valent pas. Et que notamment celle du vin serait moins forte que celle de la vodka ou du whisky. Il va de soi que c'est une erreur, on va dire un fake news, pour parler comme on parle aujourd'hui. C'est dommage que ça vienne du plus haut de l'État. Mais l'alcool, c'est clairement une boisson dangereuse, parce que la molécule d'éthanol se transforme en une molécule cancérogène avérée. Donc, et que l'on boive un verre de vin, ou que l'on boive un verre de whisky ou un verre de bière, à proportion équivalente, les risques sont les mêmes.
Et justement, à part ces recommandations, il y a des aliments qui sont conseillés, justement, qui sont protecteurs contre le cancer ?
Oui, pour certains organes, c'est avéré. Alors évidemment, les fibres, donc tous les légumes qui ont des fibres. Alors pourquoi ? C'est simplement parce que ça fait travailler le transit intestinal. Donc ce sont des fibres qui se gonflent d'eau. Donc ça, c'est vraiment très protecteur pour tout ce qui est de la sphère digestive. Il y a effectivement le poisson aussi qui, dans une certaine mesure, est protecteur pour les cancers colorectaux. Donc nous listons ainsi, et il faut le lire dans le détail parce que on peut pas faire des globalités. Il y a effectivement des aliments qui sont fortement déconseillés et d'autres, au contraire, fortement conseillés.
Aliments et cancer, pour comprendre les conclusions de la plus grande étude internationale, c'est à lire dans Science et Avenir de ce mois de février, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs autour de la question « Comment la science infuse, toujours plus près des étoiles ?» À suivre dans Ciel et Espace, le voyage interstellaire qui pourrait bien devenir réalité et qui commence en musique sur RFI, Mélodie Gardot, Les Étoiles.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado.
Sur RFI, autour de la question comment la science infuse jusque dans les étoiles.
Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
Phase d'allumage moteur principal, H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider.
Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps ?
8.
Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance.
7.
Murphy, il faut que tu me parles.
6.
Il faut qu'on règle ça avant que je parte.
Tu sais même pas quand tu reviendras.
5. Allumage moteur principal.
Extrait de la bande-annonce d'Interstellar, de la fiction à la réalité. Ciel et Espace, Philippe Hénarejos consacre sa une et son dossier au voyage interstellaire. Alors, je ne sais pas si on peut vous faire confiance, mais voyager vers les étoiles, c'est un rêve qui pourrait bien prendre forme.
Alors, je ne sais pas si vous devez nous faire confiance, mais lisez-le, parce que si nous, on a eu l'idée de faire un dossier de 20 pages là-dessus, c'est que quand même, le sujet revient sur le devant de la scène. C'est un vieux sujet, quand même. Dans les années 60, il y avait eu plein de projets de vaisseaux spatiaux, parce que les scientifiques, les astronomes se demandaient comment on va pouvoir franchir cet espace incroyable entre le système solaire et même l'étoile la plus proche qui est Proxima du Centaure. C'est quand même 4,3 années-lumière. Comme ça, 4,3, c'est un petit chiffre. Mais si vous le transformez en kilomètres, ça fait des dizaines de milliers de milliards de kilomètres.
À franchir.
Et donc, voilà, il faut une vitesse incroyable. Donc, Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, déjà on réfléchit, ils avaient imaginé des vaisseaux dont on refait un peu la liste avec des explosions nucléaires, des choses gigantesques, parce que le problème pour franchir cet espace, qui est immense, dans un temps raisonnable, c'est qu'il faut aller très vite. Donc il faut s'approcher de la vitesse de la lumière, qui est quand même quelque chose de difficile à atteindre. Il faut beaucoup d'énergie, donc on imaginait ce qu'on a de mieux, les bombes nucléaires, c'est pas très écolo, c'est pas terrible.
C'est
surtout dangereux. Et ça demandait des infrastructures avec des milliards de tonnes.
C'était pas réalisable.
C'était pas réalisable. On était quand même un peu bloqués. Et depuis, ça a été relancé il y a quelques années, en 2016, avec une initiative qui a été lancée avec une grande conférence de presse c'était Yuri Milner, le milliardaire russe qui a lancé cette initiative, avec à l'époque Stephen Hawking. Donc il fallait qu'il y ait du battage. Nous, on était très sceptiques, on avait vu ça, on avait regardé, mais rapidement, on s'est rendu compte que la nouvelle voie qui était proposée n'était pas si impossible que ça. Au contraire, ça renouvelait le genre. Ça consiste, au lieu d'emporter le carburant qui demande des milliers de tonnes, etc., une énergie incroyable, la stratégie consiste à pousser le vaisseau par un faisceau laser. Et le vaisseau, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un vaisseau habité, hein, pour l'instant on n'en est pas là, mais ce seraient des micro-vaisseaux qui feraient 4 grammes chacun, qui seraient tout petits, avec des voiles solaires,
c'est insensé parce que vous montrez ça dans l'espace.
Alors au début, vraiment en 2016, quand ce projet a été livré à la presse, on a été très sceptiques. Et puis on a enquêté sur la durée, parce que il y a de l'argent qui a été mis sur la table par ces milliardaires, par ces fournisseurs de fonds. Il y a des chercheurs sérieux qui travaillent là-dessus, et tout ce beau monde finalement commence à voir un peu tous les problèmes qu'il y a, parce que c'est pas juste une solution, c'est une solution assortie d'autres problèmes. Pousser un vaisseau par un faisceau laser, comment on fait? Il faut émettre ce faisceau laser de la surface de la Terre, il faut qu'il soit assez puissant. Et justement, ces dernières années, les progrès dans les faisceaux laser ont redonné cette idée aux chercheurs. Et il y a toute une liste sur le site des promoteurs du projet de problèmes à surmonter. Mais les chercheurs s'y attaquent et ça ne semble pas complètement incongru. Au contraire, c'est une voie qui semble plus prometteuse que tout ce qui avait été imaginé.
En tout cas, c'est inversé complètement la proposition.
Complètement.
C'est voiles, des tout petits vaisseaux.
Voilà, l'idée, c'est qu'il y aurait de tout petits vaisseaux, donc très légers, on les lance avec une fusée classique. Ils seraient des centaines ou des milliers. Parce qu'il y aura de la casse, forcément, et le meilleur moyen qu'il y en ait un ou deux qui arrivent, ou quelques-uns qui arrivent, c'est qu'il y en ait beaucoup. C'est toujours le même principe dans le spatial. Et puis on les pousse avec ce gros faisceau laser qui va tout emporter. Il faut éviter les instabilités, il faut éviter que ça se casse. L'accélération, c'est, je crois, en demi-heure, on arriverait à 20% de la vitesse lumière. Donc ça fait une sacrée dose de G.
Il faut que ça tienne. Hein,
un équipage ne pourrait pas supporter ça, par exemple. Et puis il y a d'autres problème, il faut résister à l'usure des poussières interstellaires. L'espace est vide, mais pas complètement. Il y a des petites molécules qui traînent, il y a des petites poussières. Et vous prenez une poussière comme ça, je dirais pas dans l'œil, mais vous percutez une poussière ou quelques atomes à 20% de la vitesse lumière, on ne se rend pas compte, l'énergie est énorme. Ça va éroder le vaisseau. Est-ce qu'il va rester quelque chose à l'arrivée? On ne sait pas. Donc il y a tout un tas de stratégies. Est-ce qu'il faut les mettre de biais pour qu'ils aient moins de poussière sur leur voile ou pas? Et puis une fois sur place, c'est pas tout d'y arriver. Supposons qu'on y arrive, il faut aussi que ces micro-vaisseaux arrivent à communiquer quelque chose, car quand même le but, ce serait de photographier par exemple la planète dont on parle dans le dossier, qui a été découverte autour de Proxima du Centaure. Il y a une planète qui est là-bas, c'est la première étoile la plus proche, et il y a déjà une planète. Donc l'idée, c'est de la photographier, de la mesurer. Il va falloir envoyer ces données. Comment on fait avec des vaisseaux aussi petits pour envoyer les informations, une image ou des mesures spectrales sur la Terre? Prenons l'exemple de la sonde New Horizon qui a survolé un astéroïde lointain à 6 milliards et demi de kilomètres simplement du Soleil. C'est loin, il a une antenne de 3 mètres de diamètre. Il a envoyé ça à un débit qui prend des semaines pour acheminer quelques images. Mais là, on sera à 4 années-lumière et demi. Comment on fait? Il faut envoyer un faisceau laser, il faut qu'on soit capable de le capter. Donc tout ça, ça paraît insurmontable, mais pas tant que ça. Donc il y a des gens qui travaillent, ils sont mis au travail là-dessus, et ils espèrent, alors sans doute sont-ils optimistes, que dans 20 ans, on pourra peut-être commencer à tester quelque chose qui ressemblera à un prototype.
À suivre, mais en tout Philippe Pénarejo, voilà. Je pense qu'on n'est pas rendu.
On essaie de sortir du système solaire qui finalement est bien exploré. Bien sûr, il reste beaucoup de choses à voir, mais la prochaine destination, clairement, c'est les étoiles, et ce fait-là relance tout à fait l'exploration spatiale.
Prête à embarquer pour les étoiles, le rêve du voyage interstellaire prend forme. C'est le dossier entre science et science-fiction tout de même, à lire dans Ciel et Espace, dont je vous rappelle, nous avons un exemplaire à vous faire gagner, avec en prime le calendrier astronomique pour 2019, pour garder la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, prête au meilleur comme au pire, sur le terrain dangereux des insectes OGM. Enquête à suivre dans Science et Vie, juste après Camille Bazbaz sur RFI, Insectes.
Je suis une idée de fourmi. Je suis une idée d'être en vie. Je suis une virée de scarabée. Une petite virée en toute liberté. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Je suis une idée papillon. Je suis une idée sans prison. Je suis une pensée coccinelle. Une petite pensée, rien que pour elle. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort.
Insectes de Camille Bazbaz sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Caroline Tourbe, dans Science et Vie, vous avez mené l'enquête sur les insectes OGM, génétiquement modifiés donc. Les insectes peuvent inoculer des virus pour le meilleur, mais aussi pour le pire, pour sauver ou pour détruire des cultures. Hein, c'est
une bien étrange histoire sur laquelle Alexandra Pienne a enquêté pour nous à Science et Vie. En fait, c'est parti de la lecture d'un article signé par des chercheurs franco-allemands qui s'alarmaient d'études menées aux États-Unis sur des virus qui sont modifiés génétiquement pour être disséminés via des insectes sur des cultures comme le maïs, par exemple, ou les tomates, ou des céréales. Et ils avaient dans ce papier des mots assez durs contre ce type de recherche et s'inquiétaient énormément. Donc à partir de là, elle a essayé de comprendre quelle était la teneur de ce programme. Et assez rapidement, ça a été difficile parce qu'en fait, c'est un programme qui est financé par la DARPA. Et la DARPA, en fait, c'est un acronyme qui signifie que c'est l'agence américaine de développement de la recherche scientifique. Voilà, en gros, c'est de la recherche financée pour servir ensuite à l'armée américaine.
À l'armée américaine.
Exactement.
Donc ces insectes OGM pourraient être...
Mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que tous virale. Les programmes vont être directement pour un développement d'armes. Ça peut être aussi des programmes qui vont être dans une sorte de défense. Et là, c'est un peu l'argument des chercheurs qu'elle a réussi à contacter, qui sont donc financés par la DARPA, qui sont financés par l'armée américaine en partie, et qui disent en fait, cette utilisation de virus génétiquement modifiés, qui sont donc mis à l'intérieur d'insectes, qui ensuite vont aller se poser sur des plantes. Ce sont des insectes suceurs, par exemple des pucerons. Ils vont infecter la plante avec ces virus modifiés. Mais en fait, cette infection peut être bénéfique à la plante et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est de donner via ce virus des gènes qui vont, par exemple, permettre à la plante de lutter contre une sécheresse carabinée ou de lutter contre l'infection d'autres maladies.
Ça, c'est du bon usage voilà, des insectes OGM.
Du bon usage de l'insecte porteur de virus OGM.
Sauf quand on sait que c'est développé par l'armée américaine, on se dit qu'il y a aussi questions. un autre usage possible
de ces insectes infectés. Et puis pourquoi les chercheurs franco-allemands étaient alertés aussi, et pourquoi quand elle a creusé le sujet, qu'elle a donc parlé avec ses chercheurs américains pour savoir où ils en étaient. Alors c'est des recherches qui sont vite classées secret défense, mais enfin toutes les données qu'elle a pu rassembler montrent que quand même clairement c'est plus simple actuellement d'utiliser cette technique-là pour inoculer un gène capable de stopper la croissance ou de tuer les plantes que de lui permettre de résister à la sécheresse ou de se développer mieux face à une agression extérieure. Pourquoi ? Génétiquement, c'est plus simple. Génétiquement, c'est plus simple de donner un virus qui va stopper la croissance ou tuer la plante. Techniquement, voilà, c'est plus simple que de donner un virus qui va permettre d'améliorer la résistance à la sécheresse, où là, il faut en fait plusieurs gènes. Les modifications génétiques pour contribuer à améliorer la vie de la plante sont plus complexes, exactement, que celles qui permettent de la tuer. Donc c'est pour ça qu'il y a des tas d'alertes, des signaux d'alerte, en gros, autour de ces recherches. C'est des recherches qui sont financées à hauteur de plusieurs millions de dollars. C'est clairement quelque chose qui serait qui est une ligne rouge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les recherches sur les armes biologiques, il y a des lignes rouges qui sont faites, et notamment sur l'utilisation de la génétique et de tous les outils génétique au service de l'armée. Si c'était réel et si ce programme continuait tel qu'il est là, on aurait clairement une ligne qui serait franchie par l'armée américaine, qui aurait possiblement le moyen, du coup, d'envoyer son armée d'insectes porteurs de virus génétiquement modifiés.
Pour détruire des cultures.
Pour ravager des cultures, tout en ne laissant pas de traces, parce qu'au final, c'est extrêmement compliqué. Tout ça va permettre d'avoir une attaque ciblée, extrêmement rapide, de faire mourir des cultures très vite, et puis de ne pas laisser de traces, parce que ces modifications génétiques et ces insectes ne perdurent pas. Les insectes sont même modifiés eux aussi génétiquement pour mourir après avoir été déposé leur virus dans la plante.
Donc, pas de trace, mais ça fait penser vraiment à un roman d'espionnage. C'est pas une fake news, hein, c'est pas la réalité pour le moment, mais c'est pas une fake news, c'est quand même une recherche qui a priori est en cours.
C'est pas une fake news puisque les recherches sont en cours. Hein. Clairement, c'est ça qu'on a vérifié, c'est ça qui a été le travail d'enquête qui a été fait par Alexandra Pienne. C'est ça, c'est de vérifier que c'est pas une fake news. C'est vrai qu'au début, ça avait l'air tellement gros qu'on s'est demandé, mais en fait, pas du tout. Et le niveau d'alerte des équipes franco-allemandes qui ont eu vent justement de ces recherches, il est réel aussi. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est si vraiment cette ligne sera franchie et si on va vers le développement d'une nouvelle arme entomogénétique.
Entomogénétique, c'est entomo comme les insectes, voilà, hein, les entomologistes, et génétique.
Et génétique, voilà. Est-ce que ça va être le début d'une guerre entomogénétique ? On ne sait pas, mais clairement la question elle se pose maintenant et les technologies sont plutôt au service de cette arme-là que du bien-être
oui.
des plantes.
Oui, elle faciliterait, c'est plus facile de faire, vous l'avez dit, des insectes OGM qui soient une arme que des insectes OGM qui puissent sauver des cultures. Les insectes OGM, l'arme virale secrète, point d'interrogation, enquête à lire dans Science et Vie, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, pour vous faire justement votre propre idée. Peace or violence, on écoute Stromae sur RFI, avant de plonger dans les trous noirs.
Peace or violence, violence. J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Peace or violence. Je me suis dit que c'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps qu'il faudra le temps, mais finalement je le saurai. Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Serait-ce un signe de paix, ou bien le fait de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance, ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix, ou bien le fait de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance, ou ce qu'il fait?
Or Violence, Stromae sur RFI, qu'est-ce que j'en sais, dit-il, comment prédire l'imprévisible, comment comprendre l'entropie au cœur même des phénomènes les plus violents de l'univers. C'est le paradoxe des trous noirs que nous allons interroger avec vous dans la recherche, Sylvain Guibaud. La recherche qui fait la une et son dossier sur une des plus grandes énigmes scientifiques, l'entropie.
Les Shadows inventèrent l'entropie. Toute machine thermique Shadok qui disperse des calories dans la nature crée de l'entropie. Et ils concoctèrent les plans d'une machine parfaite qui ne ferait pas d'entropie, comme ils appelaient ça. C'était un drôle d'ustensile qui devait marcher très 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 excessivement lentement, et cela dans les deux sens et éternellement. Les Shadok dirent que ça ne les intéressait pas, que des locomotives qui restent sur place quasiment, ils ne voyaient pas tellement d'intérêt, et que de toute façon, ils n'étaient pas outillés pour augmenter l'entropie de l'univers, et ceci de façon irréversible. Nous disons bien irréversible. Car quand l'entropie de l'univers sera maximum, quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, aucune machine au monde ne pourra la récupérer. Et vous mourrez. Alors craignez, oui, craignez.
L'entropie à l'œuvre dans l'univers des Shadok, Sylvain Guibaud. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est à la une. C'est vraiment toujours une des plus grandes énigmes scientifiques et c'est à la une de la recherche.
Oui, c'est pas que dans l'univers des Shadok que l'entropie
et
existe,
voilà.
C'est aussi dans le nôtre. En fait, l'entropie, c'est cette grandeur qui a été introduite essentiellement au 19e siècle pour étudier les systèmes de la chaleur, en fait. Les moteurs thermiques, essentiellement, avaient donc des grandeurs qu'on connaissait bien, comme la température, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une grandeur aussi qui avait la particularité dans un système fermé de toujours augmenter. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Et effectivement, c'est... Imaginez que vous ayez un ballon avec quelques molécules de gaz à l'intérieur. Eh bien, naturellement, ces molécules vont avoir tendance à prendre tout l'espace possible dans le ballon. Et au final, vous aurez un état qu'on appelle très désordonné. Et ce désordre, on l'associe à l'entropie. Voilà, une façon avec les mains, on explique souvent que l'augmentation de l'entropie est liée à l'augmentation du désordre. Et on se rend compte qu'effectivement, ce qu'on appelle la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire quelque chose dont on est essentiellement sûr, qui est à la base de toutes nos théories physiques, c'est que cette grandeur, l'entropie, dans un système fermé, ne doit qu'augmenter. D'accord. Or ça permet de très bien comprendre tous les systèmes, les machines thermiques par exemple, les trains à vapeur, mais aussi tous les systèmes actuels. Mais dans les années 70, on s'est rendu compte que l'entropie pouvait aussi décrire des systèmes beaucoup plus éloignés de notre vie quotidienne que sont les trous noirs. Alors tout à l'heure, on parlait du voyage interstellaire. Là, les trous noirs, c'est encore au-delà des étoiles. Simplement,
c'est des phénomènes complètement cataclysmiques.
Cataclysmiques. Alors pour le coup, on ne va pas essayer de s'en approcher. Pour l'instant, il n'y a aucun projet de vaisseau spatial pour s'approcher des trous noirs.
Il risquerait quand même d'être absorbé, oui.
Dans ce que font les astrophysiciens, notamment des astrophysiciens célèbres comme Stephen Hawking, qui a étudié ce phénomène toute sa vie, ou alors Jean-Pierre Luminet, l'astrophysicien français qui nous explique ici dans la recherche et qui nous guide vers cette idée du paradoxe de l'information dans les trous noirs.
C'est effectivement... Le paradoxe des trous noirs, le paradoxe de l'information.
Absolument.
Dans les trous noirs, qu'est-ce que c'est?
C'est lié justement à cette question d'entropie. Dans les années 70, les trous noirs, rappelons d'abord que ce sont ces objets extrêmes dans l'univers qui sont capables d'attirer des objets, de les avaler. Et ensuite, une fois que ces objets sont avalés, ils ne peuvent pas ressortir de ce qu'on appelle l'horizon de ce trou noir, parce que la gravité est trop forte à l'intérieur du trou noir. Elle attire tout, même la lumière qui plonge à l'intérieur ne peut pas en ressortir. Donc finalement, ces trous noirs ont donc un horizon. Ils peuvent avaler de la matière, ils peuvent franchir l'horizon dans un sens, ce qui fait que l'air de cet horizon peut augmenter. Mais rien ne peut ressortir de ces trous noirs. Finalement, l'air ne peut jamais diminuer. Et finalement, les astrophysiciens voyaient une espèce d'analogie entre cet air des trous noirs qui ne pouvait qu'augmenter, mais jamais diminuer, un peu comme l'entropie d'un système ne pouvait toujours qu'augmenter sans jamais diminuer. Et cette analogie a été poussée un peu plus loin, de façon plus rigoureuse, justement par Stephen Hawking, qui a montré que, effectivement, si les trous noirs avaient une entropie, ils avaient aussi une température. Et ça, c'était la grande découverte de Stephen Hawking, d'associer une température aux trous noirs. Mais ça voulait dire aussi quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que bien que les trous noirs, a priori, rien ne pouvait en sortir, puisqu'ils ont une température, ils doivent émettre de la lumière.
Et donc, il y a bien quelque chose qui ressort quand même du trou noir, dont rien ne peut sortir.
Absolument.
C'est ça le paradoxe.
C'est ça. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Alors, en soi, ça ne serait pas un paradoxe si on pouvait faire quelque chose de ce rayonnement. C'est-à-dire, si on pouvait, grâce à ce rayonnement de Hawking, si on pouvait retrouver l'information sur la planète ou l'étoile qui a été avalé par le trou noir. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Ce rayonnement de Hawking est beaucoup trop dégradé. Finalement, il ne contient aucune trace de l'objet qui a été avalé par le trou noir.
Donc finalement, la grosse question des astrophysiciens, c'est est-ce qu'on peut récupérer une information ou un objet qui a été avalé par un trou noir?
Oui, alors ça semble une question vraiment théorique. Et d'ailleurs, c'est un des intérêts des trous noirs.
Ou métaphysique,
enfin. Pour les astrophysiciens, c'est qu'effectivement, ils les étudient à coups de papier, de crayon, de matière grise. Mais finalement, cette question de savoir si on peut retrouver l'information d'un objet qui a été avalé par un trou noir est essentiel pour en fait toute la physique. Pourquoi ? Puisque nos lois de la physique, là je mentionnais les lois de la thermodynamique, mais ça vaut aussi pour la physique quantique, c'est-à-dire celle qui décrit vraiment tous les phénomènes qu'on imagine quotidiens. Par exemple, le fait qu'un objet soit conducteur ou isolant, au fond c'est la mécanique quantique qui permet de comprendre pourquoi. Or, cette théorie requiert à la base que l'information soit conservée. C'est-à-dire que si l'information disparaît pour une raison ou une autre, par exemple vous enfermez un objet dans un coffre-fort, certes elle reste inaccessible d'un point de vue pratique, mais vous pouvez toujours rouvrir le coffre-fort et retrouver l'information. Si dans un trou noir l'objet est avalé, mais qu'au final jamais vous ne pouvez retrouver l'information, ça viole la loi de base de la mécanique quantique. Et finalement, tous les phénomènes qu'on peut aujourd'hui expliquer se retrouve sans explication.
D'où l'intérêt de résoudre ce syndrome des trous noirs.
D'où l'intérêt de résoudre ce paradoxe de l'information. Et c'est la tâche à laquelle beaucoup d'astrophysiciens se sont confrontés, notamment Stephen Hawking, qui toute sa vie, donc il est décédé l'année dernière, mais jusqu'à l'année dernière, il travaillait avec ses collaborateurs.
Et un dernier article posthume de lui porte encore là-dessus.
Absolument. Absolument, un article posthume qui a été donc déposé sur le site en ligne Archive. Donc, tout le monde ici peut aller consulter cet article. Donc, poursuit cette tâche, parce que finalement, il y a plusieurs alternatives possibles à ce paradoxe. Soit effectivement, l'information avalée par les trous noirs est définitivement perdue. Et alors là, c'est une catastrophe pour les physiciens, parce qu'il faut tout reconstruire depuis zéro.
Tout réinventer, alors, oui.
Généralement, ça... On envisage cette hypothèse qu'en dernier ressort. Soit, finalement, une hypothèse très spéculative, c'est que cette information passe par un trou noir et ensuite, elle est stockée dans un espèce de coffre-fort, dans un univers parallèle auquel on ne peut
et
pas
accéder. Et elle peut ressortir ensuite, peut-être.
Donc ça, ok, mais bon, c'est très spéculatif, on ne peut pas le tester. Une autre alternative, ça serait de pouvoir expliquer ce paradoxe à l'aide d'une théorie qui va au-delà de ce qu'on connaît actuellement, au-delà de la théorie qui décrit les trous noirs, qui est la relativité générale d'Albert Einstein. Par exemple, qu'on appelle la théorie des cordes, donc qui est très spéculative, qui serait une théorie qui pourrait justement décrire tous les objets de l'univers, y compris les trous noirs. Et donc des physiciens des cordes ont essayé de construire des modèles pour expliquer ce paradoxe de l'information à partir de cette théorie spéculative. Le problème, c'est qu'on n'a encore aucune expérience qui permette de tester si cette théorie des cordes est vraie ou non. Et finalement, la dernière possibilité, ça serait de, avec les outils théoriques dont on dispose, la relativité générale d'Albert Einstein, est-ce qu'on peut quand même résoudre ce paradoxe de l'information? Et c'est la voie qu'empruntait Stephen Hawking à la fin de sa vie et qu'empruntent aujourd'hui ses collaborateurs, c'est-à-dire pousser la théorie de la relativité générale dans ses retranchements pour trouver en fait des paramètres cachés qui seraient quand même conservés dans les trous noirs, puisqu'à En fait, actuellement, les trous noirs sont essentiellement décrits par seulement trois paramètres, la masse, leur charge électrique et leur quantité de rotation. Et Stephen Hawking argumentait qu'on pouvait éventuellement trouver d'autres quantités qui seraient conservées, qui seraient plus difficiles à montrer théoriquement, mais qui néanmoins pourraient effectivement conserver une partie de l'information des objets qui ont été stockés dans les trous noirs.
Grande énigme scientifique de l'entropie et du paradoxe des trous noirs. Moi, j'ai presque compris en vous écoutant Sylvain Guibaud, ce qui est quand même pas mal pour comprendre encore mieux. C'est-à-dire dans la recherche ce mois de février, où vous avez convoqué Hubert Reeves donc, et Jean-Pierre Luminet autour de ce paradoxe des trous noirs. Je vous rappelle que nous avons un exemplaire de la recherche à vous faire gagner, amis auditeurs. Il faut faire vite avant d'être absorbé justement par le supermassive black hole de Muse. Black Hole dans le trou noir avec le groupe Muse sur RFI. Pour remettre un peu de lumière dans tout ça autour de la question comment la science infuse et se diffuse, vous nous emmenez, Carole Châtelain, dans Science et Avenir, dans le désert marocain.
Oui, c'est notre journaliste Loïc Chauveau qui s'est rendu donc dans le désert marocain, non loin de Ouarzazate, où a été inaugurée tout à fait récemment la plus grande centrale solaire au monde et qui fournit 580 mégawatts d'électricité.
Et ce qui veut dire que le solaire entre dans l'ère industrielle, en fait.
C'est en tout cas un signe qui est donné, un signe extrêmement fort. Et à horizon 2050, 11% de la production d'électricité mondiale se fera à partir du solaire à concentration, parce qu'en fait c'est une technique tout à fait particulière. Et au Maroc, la particularité de cette centrale qui s'appelle Nour, qui veut donc dire lumière, c'est que c'est un projet qui a été lancé en 2011 et qui se fait par phase et qui teste toutes les techniques actuellement matures en matière de solaire. Donc il y a Nour 1, Nour 2, Nour 3, chacune a sa spécificité technique. Et celle qui vient d'être inaugurée, qui est Nour 4, elle est à concentration, c'est-à-dire qu'il y a une tour qui concentre le soleil et qui l'envoie dans des tuyaux qui réchauffent une eau, qui fabrique de la vapeur d'eau, etc. etc. Enfin voilà, le solaire ensuite classique.
Mais c'est la plus grande centrale à énergie solaire du monde.
Du monde, vraiment, et de loin. Et les Marocains ont de l'ambition, puisqu'ils pensent un jour parvenir à être exportateurs et même fournisseurs d'électricité pour l'Europe.
C'est le meilleur qu'on puisse leur souhaiter. On va maintenant se demander comment éviter que le ciel nous tombe sur la tête. Caroline tourbe grâce aux astéroïdes tueurs, c'est ça, c'est la une de Science et Vie.
Alors c'est un dossier sur la question de comment faire si un astéroïde se dirige droit sur la planète Terre, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser. Alors figurez-vous qu'il y a une sonde de la NASA, la sonde DART, qui d'ici 3 ans ira percuter un astéroïde qui est à 100 millions de kilomètres de nous pour essayer de faire une sorte de crash test en direct, savoir s'il est possible
de modifier sa trajectoire.
Et en fait tout le dossier reprend certaines des grandes idées qu'on peut être développées ou en tout cas qui ont pu être énoncées pour éviter qu'un astéroïde qui foncerait droit vers nous nous arrive jusque sur le coin du nez. Donc il y a évidemment l'ogive nucléaire qui est le truc le plus efficace, ça c'est clair, mais on pourra l'essayer qu'une seule fois.
C'est ça.
On peut pas le tester avant, mais il y a des tas d'hypothèses qui sont de propositions qui sont marrantes, comme par exemple modifier, peindre la surface de l'astéroïde pour modifier le rayonnement solaire et puis modifier du coup
sa trajectoire. Voilà. Ah, il suffirait d'un petit coup de peinture.
Il y a plein d'idées comme ça qui sont à la fois amusantes et en même temps qui nécessitent un développement technologique qui est loin d'être anecdotique, qui pourrait servir aussi pour d'autres choses.
Intéressant, ces astéroïdes tueurs et comment leur échapper. Philippe Hénarejos dans Ciel et Espace. Autre enquête exclusive sur un étrange pays nouveau, une étrange nation spatiale fondée par un drôle d'ex-fabricant de missiles russes.
Oui, c'est tous ces ingrédients qui nous ont incités à enquêter. Et notre journaliste Alexandra Bogart a vraiment fait un très beau travail parce que il y a 2 ans, quand a été fondée Asgardia, c'est son nom.
Asgardia.
C'est cette nation spatiale, mais qui est virtuelle. C'est en ligne, vous adhérez en ligne. Bon, c'était présenté comme quelque chose d'assez... onirique, on va dire, avec une promesse d'une nation humaniste qui se développerait en orbite autour de la Terre avec des stations spatiales. On a envie d'y croire, même nous, à Ciel et Espace, on est doux rêveurs, donc on est plutôt gentils, on y croit. Mais quand même, on est aussi journalistes.
Quand on creuse un peu
mais qu'est-ce qu'il y a derrière
spatiale, ouais.
Et déjà, quand vous regardez Asgardia, il y a des citoyens, mais il y a des citoyens à plusieurs vitesses. Certains, pour être vraiment citoyens, doivent payer. Alors, ce n'est pas un impôt, c'est une taxe. C'est une nation qui s'est dotée d'une constitution. Bon, quand on l'a lu, ça ressemble pas vraiment aux constitutions qu'on connaît pour les vrais pays, avec un roi qui est quand même autoproclamé, qui est un ancien ingénieur. C'est un russo-azerbaïdjanais, Igor Ashurbeyli, qui a quand même mis au point un des missiles russes et qui a travaillé longtemps dans le militaire. Et donc, tout ça a fait que nous sommes interrogé et que cette enquête apporte un certain nombre d'éléments de réponse qui nous font dire que ce n'est quand même pas le pays aussi rêvé que l'on pourrait imaginer.
Donc tant pis pour Asgardia, on n'ira pas dans ce nouveau pays spatial. On termine ce tour de table avec un entretien qui fait vraiment, comment dire, du bien par où ça passe et qui met à mal de nombreuses idées reçues sur les migrations. C'est dans La Recherche, entretien avec le démographe François Errant, qui était notre invité aussi, professeur au Collège de France, directeur de l'Institut Convergence Migration, qui nous rappelle à quel point les données contredisent beaucoup de nos idées reçues, hein,
Absolument.
Sylvain Guibaud, sur les migrations.
C'est vrai que ce sujet des migrations électrise souvent le débat public à tort et à travers. On a d'un côté parfois des hommes politiques et des femmes politiques de tous bords qui instrumentalisent des chiffres en balançant des chiffres de millions d'étrangers qui seraient en France sans replacer les chiffres d'une part dans leur contexte et ensuite dans les proportions. Et ensuite, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que ce débat est souvent charrié par beaucoup d'émotions, de passions, que prendre le temps de discuter sur des données fiables...
Oui, de regarder simplement
des chiffres. N'est pas pris. Justement, c'est l'intérêt de cet entretien avec François Errant qui nous rappelle simplement des valeurs de base. Certes, il y a 8 millions d'immigrés en France, mais ça ne représente que 12% de la population et c'est le même taux qu'au Royaume-Uni, qu'aux États-Unis. Et la majorité des immigrés dans le monde sont surtout des immigrés sud-sud qui vont des pays du sud vers leurs pays voisins.
Sur les continents eux-mêmes, pour en savoir plus à lire, donc absolument, cet entretien de François Errant dans La Recherche. Merci Sylvain Guibaud, merci Philippe Hénarejos, Caroline Tourbe et Carole Châtelain. On se retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien, autour de vos magazines respectifs, La Recherche, Ciel et Espace, Science et Vie, Science et Avenir, magazine dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner. Amis auditeurs, ils sont pour vous, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale, à bon entendeur. Merci à Hugo Violas pour la réalisation, Tania Tsikounas en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous poser ensemble de nouvelles questions sur RFI. Gardez l'esprit libre et ouvert. Bien sûr, restez curieux. Le prochain journal dans une minute.